Les colloques du Collège de France.
Donc je vais vous parler d'un scribe
spécifique. D'une certaine manière, c'est une communication de facilité. Nous avons un scribe dont nous avons plus de 300 fragments de conservés, donc c'est beaucoup. Et tous proviennent de la Guenizah du Caire, nous allons en parler. Et les dates, les documents datés de ce scribe sont sur une période assez courte, c'est-à-dire une quinzaine d'années. Le manuscrit daté, explicitement daté, le plus ancien est de 1196 et le document explicitement daté le plus récent est 1211. Et nous savons que tous les documents que nous avons ont été écrits en Égypte, probablement à Foustat, peut-être certains en Alexandrie. Il y a un au moins qui a été écrit en Alexandrie. Donc nous allons travailler sur un scribe très défini, très bien représenté. Et en plus, son écriture est très facile à identifier parce que nous le trouvons. Donc nous le retrouvons dans la Guenizah du Caire, où la plupart, la plupart de manuscrits ont été créés en Égypte. Et notre scribe est d'origine irakienne. Donc son écriture est assez facile à reconnaître. Et en plus, nous avons plusieurs fragments où son colophon est conservé. Donc il est assez facile de reconnaître. Et aujourd'hui, je parlerai d'un petit aspect de ce scribe énorme, parce que plus de 300 fragments, c'est vraiment un chantier paléographique vraiment conséquent. Je parlerai d'un seul aspect, c'est-à-dire des écritures de ce scribe qui sont typologiquement différentes. Donc je ne parlerai pas de changements au sein du même mode d'écriture ou à travers, donc tout au long de la vie du scribe. C'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui parce que je veux me concentrer sur un aspect de l'écriture de ce scribe particulier. Donc, oui. Et oui, et là ça ne marche pas. Ah, parfait, merci. Donc, comme je vous ai dit, les exemples dont nous allons parler de ce scribe particulier, vous avez son nom ici, il s'appelle Joseph, son père s'appelait Jacob et il a un titre de Rosh Haseder. Je vais vous parler un tout petit peu de ce titre, un peu de la vie de ce scribe qui peut être effectivement reconstitué uniquement à partir des documents de la Guenizah du Caire. Nous n'avons pas d'autres sources qui parlent de ce personnage ou de ce manuscrit. Donc voilà, donc la Guenizah du Caire, vous le savez probablement tous, mais très rapidement, dans le judaïsme, il y a une coutume qui existe depuis la fin de l'Antiquité, que les documents qui auraient pu contenir le nom des dieux ne peuvent pas être détruits par une action humaine. Donc ces documents doivent être entreposés ou jetés dans un endroit, une sorte de corbeille à papier sacré, où on dépose les documents pour ne pas les profaner, mais très différemment d'une bibliothèque ou des archives, ces documents ne sont pas destinés à être consultés de nouveau. Donc des grandes communautés juives possèdent jusqu'à aujourd'hui une Guenizah. Parfois les documents sont enterrés dans des cimetières, parfois il s'agit d'une pièce dans une synagogue. Donc il y a toutes sortes de modes d'existence d'une Guenizah. Ce qui est important, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, des fragments qui ont été jetés dans une Guenizah ou plusieurs Guenizotes à Foustat et au Caire. Donc aujourd'hui Foustat, c'est une partie de la ville de Caire. Au Moyen-Âge, il s'agissait d'une ville différente. Donc, des documents entreposés dans la Guenizah qui s'appelle la Guenizah de Ben Ezra à Foustat, et d'autres Guenizotes, et même les cimetières juifs de Bassatine au Caire. Donc, à partir de la moitié du XIXe siècle, ces manuscrits sont vendus d'abord aux antiquaires, aux voyageurs, tout simplement, voyageurs, surtout britanniques, qui se promènent et qui rapportent quelques fragments anciens d'Égypte. Et ensuite, de manière plus programmée, il y a des chercheurs européens, le bibliothécaire Neubauer de Oxford, ou bien, comme ici, le professeur de la littérature rabbinique, Solomon Schechter, à l'Université de Cambridge, qui apporte des collections énormes. Donc aujourd'hui, les fragments provenant de la Geniza du Caire sont 350 000 et sont éparpillés aujourd'hui dans 72 collections à travers le monde. Et dans beaucoup de ces collections, nous trouvons des fragments de la main de notre Joseph Rochefort-Seder. Donc c'est une petite introduction du contexte de la découverte et donc du travail sur ces scribes. Donc il y a plus de 300 fragments dans son écriture très, très spécifique qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. Peut-être que nous allons en trouver d'autres. Et donc, il s'agit des éléments très intéressants parce que nous avons à la fois des copies des livres. Donc, c'était un copiste des livres. Il copiait des livres écrits par des personnes, par des grands classiques, la Bible, le Talmud, la Mishnah, mais aussi belles lettres d'autres genres littéraires. Donc, c'était vraiment un scribe qui représentait tous les genres, donc du adab, donc de la littérature, de la culture de l'époque. Il y a aussi des brouillons, des compilations où il agissait en tant qu'auteur, donc compilateur. Il faisait ses propres commentaires sur les Talmuds, en citant bien sûr des autorités différentes, mais il s'agissait des ouvrages dont il était auteur. Donc nous avons des autographes, donc il était également auteur. Il y a aussi des brouillons des documents juridiques. Donc nous savons qu'il était scribe des documents. Donc, il préparait des brouillons qui devaient être recopiés ensuite au propre. Il y a aussi des notes personnelles. C'est très rare d'avoir de cette période des notes où une personne, un scribe ou un auteur, nous parle de son travail de scribe, de ses projets d'écriture de livres, mais aussi de la copie ou de la vente des livres. Nous avons également des inventaires. Des inventaires principalement les inventaires de livres, y compris des prix des livres. Donc, effectivement, un corpus très, très riche et intéressant. Donc, nous avons peu d'informations sur sa vie personnelle. Donc, nous avons son nom, Joseph ben Jacob Rochefort-Seder. Il est né probablement à Bagdad. En tout cas, il a été éduqué dans l'académie ou la yeshiva de Bagdad. Donc, l'académie, il s'agissait d'une école juridique, un tout petit peu comme une madrasa musulmane. Donc, l'académie qui existait depuis l'époque du Talmud et qui a continué son existence après la conquête musulmane de la Babylonie, donc de l'Irak. Et donc, il a été éduqué dans cette grande yeshiva qui a repris un tout bon. Cette yeshiva était très importante à l'époque talmudique et ensuite jusqu'à la première moitié du XIe siècle. Mais à son époque, donc XIIe siècle, cette yeshiva est redevenue importante parce que son maître, Shmuel Halevi ben Eli, était un maître dont les ouvrages sont conservés, connus. Donc il a essayé de redorer les blasons de cette école talmudique, de cette université talmudique importante. Donc Joseph ben Jacob Rochefort-Seder a été effectivement élevé, éduqué dans cette yeshiva. Il parle de son père comme un grand chef de la communauté et comme un grand savant. Il parle de lui-même, il se donne à lui-même le titre de Rosh HaSeder. Rosh, ça veut dire la tête, donc le chef. Et Seder, c'est assez polysémique, donc Seder, ça veut dire l'ordre. Mais ça peut être l'ordre d'un texte, par exemple une partie de la Mishnah, ou bien on pense que dans l'académie, Seder, c'était tout simplement des rangées où les élèves étaient assis et il était bon élève, donc il était en charge d'une partie de la yeshiva. Donc on ne sait pas très bien, mais Rashi de Troyes définit Rosh HaSeder comme chef de la yeshiva, carrément. Donc Joseph ben Jacob Rosh HaSeder se donne ce titre important. Il était le chef de l'académie. Nous avons son contemporain un peu plus âgé, le grand philosophe Moïse Maïmonide, qui était le chef de la communauté juive de Fustat. Donc ils sont tout à fait contemporains. Ils travaillent en même temps. Nous savons que Joseph Rocheseder possède même les autographes de Maïmonide. Maïmonide ne parle jamais de Joseph Rocheseder, mais il parle d'une manière tout à fait anonyme de ceux qui se donnent des titres grandioses venant de l'Irak en Égypte. Donc il se peut qu'il parle d'une certaine manière, d'une manière pas très gentille de Joseph Rocheseder. Mais effectivement, nous trouvons dans la Geniza des notes de la main de Joseph Rocheseder, assez étonnant. Donc ici, vous voyez, déjà pour ceux qui vous n'êtes pas obligés de parler l'hébreu ou de lire en hébreu, mais vous voyez immédiatement qu'il y a des blocs de texte, n'est-ce pas ? C'est une sorte de carte de visite que Rocheseder se prépare pour lui-même et il les copie à plusieurs reprises. Donc voilà, vous avez ici des traductions, donc il se donne des titres. Mais ces titres ne sont pas tout à fait identiques. D'ailleurs, celui ici en bas, c'est la traduction Ras al-Madhab, donc carrément en arabe. Donc, il utilise aussi... Oh, pardon, ça, c'est pas Madrasa, c'est celui-là, c'est Madrasa. Ras al-Madrasa. Donc, voilà. Donc, en arabe. Donc, il se donne, effectivement, des titres aussi en arabe. Donc, vous avez les traductions. Donc, il se dit chef de l'école, fils de Jacob, qui était chef des réunions des Kala. Les réunions des Kala, c'était des réunions des étudiants dans la yeshiva babylonienne. Et fils d'Eli, chef de la communauté, que sa mémoire soit bénie. Mais dans l'autre modèle de la petite carte de visite, il s'appelle chef de la yeshiva de l'exil, fils de Jacob, le grand juge, que sa mémoire soit bénie. Donc, d'une certaine manière, il se présente de manière un tout petit peu différente, mais chaque fois, d'une manière, voilà, en soulignant son importance dans cette petite préparation de, voilà, donc j'appelle ça les cartes de visite, mais qu'est-ce que c'était, je ne sais pas. Donc voilà, effectivement, des signatures. Nous avons également des textes très brouillants et très autobiographiques où il parle même de la nécessité de changer son propre nom. Il dit... Je m'appelle Joseph Rocheseder, je devrais m'appeler, je vais changer mon nom, je vais m'appeler Nehemia, parce que Nehemia, ça veut dire, ça vient de la racine hébraïque qui veut dire consoler, consolation. J'ai vécu tant de malheurs qu'il faut que je change de nom pour être consolé. Et ensuite, il dit, en fait, peut-être je ne vais pas changer mon nom. Donc, nous avons vraiment des récits extrêmement intimes de cet écrivain. Donc, nous avons effectivement aussi des brouillons, des documents juridiques. Il est assez difficile de savoir quand il est venu en Égypte. Le premier document daté d'Égypte vient de la ville qui, en hébreu, s'appelle Noamon et qui est le nom hébraïque d'Alexandrie. Donc, nous les retrouvons en 1196 en Alexandrie. Ensuite, nous les voyons en train de voyager entre... Alexandrie et Foustat, et ensuite nous avons l'impression qu'il est implanté fermement dans la ville de Foustat, où il participe en 1212 à une controverse au sujet de comment il faut dire les prières, où apparemment il est écouté et son approche est celle qui est gagnante. Donc, ce petit document ici, et sur parchemin, est un brouillon d'un document juridique. Ce qui veut dire tout simplement qu'il est un scribe professionnel qui écrit non seulement des livres, mais aussi des documents juridiques qu'il prépare à l'avance. Il fait un brouillon qui sera ensuite mis au propre pour la signature des témoins. Donc voilà, donc il a des activités très différentes. Il est peut-être maître d'une école rabbinique, il est en train de nous dire ça. Il nous dit « je suis Rocheseder », il dit « je suis un maître du Talmud ». On ne sait pas s'il l'était vraiment. Et il était le leader de la communauté, il nous l'a dit aussi. Nous ne savons pas, il n'était certainement pas sur la liste des chefs de la communauté de Foustat. Il était impliqué dans la communauté, mais ce n'était pas un chef de la communauté. Il était auteur des commentaires rabbiniques, oui. Nous trouvons des passages de sa main que nous ne pouvons pas identifier comme des ouvrages écrits par d'autres personnes, et parfois il nous dit nous-mêmes qu'il a le projet d'écrire un grand commentaire sur les Talmuds, etc. Mais c'était surtout un warak, un mot arabe qui veut dire le papetier ou parce que le mot arabe warak vient du mot warak, qui veut dire papier. Donc c'est un papetier ou un bouquiniste. Donc ce que nous savons de lui, c'est que nous avons, il produisait des livres, il avait plusieurs fonctions qui correspondaient à ce qu'un warak musulman faisait, copier des livres, vendre des livres, prêter de l'argent sur, dont les gages étaient les livres, employer d'autres scribes, etc., etc. Donc tout ce qui était lié avec les commerces de livres et les matériaux d'écriture, parce que nous avons également des textes très intéressants, des notes très intéressantes de sa main, où nous voyons qu'il achète des pots de parchemin et aussi des noix de galle pour faire de l'encre. Donc il était vraiment assez, donc il faisait beaucoup de choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un warak ? Donc, c'est une profession que Ibn Khaldoun, un grand historien tunisien que vous avez ici, associe explicitement avec l'essor des villes et avec le monde urbain dans le monde arabe. Et effectivement, nous avons des récits comme celui d'Ibn Battuta qui nous décrit des marchés des warakoun qui étaient des endroits où des centaines de boutiquiers vendaient des livres, des kalams, etc., etc. Mais les warak étaient aussi des scribes et des auteurs connus. Donc voilà, donc c'est un tout petit peu comme Paris dans le monde latin du XIIIe, XIIe et XIIIe siècle, où il y a des rues entières de gens qui produisent des livres pour les marchés. Et c'est ce qu'ils faisaient. Donc ils produisaient principalement des livres pour le marché. Il vendait des livres, il était auteur, d'accord, il copiait des documents légaux, il employait d'autres scribes. Donc c'était vraiment un entrepreneur, il employait d'autres scribes parce que nous avons, dans un brouillon d'un texte, ça c'est un brouillon d'un texte, tout ça, et là au milieu vous avez une note assez extraordinaire que j'ai traduit, transcrit ici, où il parle de l'emploi des scribes, des paiements de l'argent qu'il a versé à certains scribes. Donc, vraiment des informations uniques, très intéressantes à ces sujets. Mais surtout, il était copiste. Donc, comme je vous ai dit, nous avons vraiment tous les gens possibles, y compris Belles Lettres, Roman d'Alexandre, et Sefer Yossipon, qui est la version hébraïque de Flavius Joseph, donc, qui a été adapté du latin, pas du grec, et donc Rituel des plis, des prières, les ouvrages de Mishneh Torah de Maïmonide, etc. Donc, il copiait des livres, nous avons des fragments de tout ce type. Il nous a donné aussi des informations sur les formats des livres qu'il allait copier. C'est absolument extraordinaire. Il nous dit, je vais copier toute une bibliothèque pour un tel prix. Il y aura tous les grands classiques et ce classique vont avoir les formats in quarto sur les papiers de Bagdad, etc., etc. Il y aura 25 lignes par page. Donc des informations extraordinaires vraiment d'un marchand de livres qui prépare son marché, donc au XIIe siècle. Il nous dit si c'est, par exemple, combien de lignes il y aura par page et aussi si les livres qu'il copie seront collationnés, corrigés ou non. Donc c'était une activité en plus, c'était de collationner des livres pour voir si les textes étaient corrects. Et il nous donne toutes ces informations. Donc, voilà, donc nous avons toutes sortes de textes. Mais aussi, ce qui est très 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 important, et c'est sur ça que je voudrais me concentrer un tout petit peu maintenant, en parlant d'un seul, en fait je vais parler d'un seul fragment seulement, il était capable d'utiliser des modes d'écriture différents. Donc quand je parle de modes d'écriture, pour la paléographie hébraïque, nous différencions des types et ensuite des modes d'écriture que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, nous allons voir à quel point ces modes sont parfois utilisés la même page. Il peut changer de mode d'écriture d'une page à l'autre. Et quand je parle de mode d'écriture, par exemple, écriture carrée, écriture non carrée ou semi-carrée, si certains préfèrent, et l'écriture cursive, ce sont les trois modes des écritures hébraïques les plus courants. Donc quand je parle de mode, je parle des aspects graphiques et formels, et pas d'un aspect esthétique de l'écriture. Donc quand l'écriture est carrée, pas très belle, cela ne veut pas dire que les semi-carrés, elle est toujours carrée parce que les formes des lettres et les aspects graphiques des lettres sont carrés. Donc je peux définir très facilement des aspects formels des écritures. Donc il utilisait plusieurs types et ici sur ce fragment, nous avons une écriture qui est une écriture non carrée qui passe en écriture cursive. Donc il y a des aspects très 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 différents des écritures. Donc, par exemple, nous avons la forme de la lettre Aleph, ça c'est un Aleph hébreu qui a l'air d'un kappa grec, d'accord ? C'est un Aleph forme caractéristique pour des écritures non carrées ou semi-cursives. Et en revanche, les lettres en N ou zigzag sont des traits d'une écriture cursive. Donc, c'est tout simplement un allographe complètement différent. Donc, c'est comme ça qu'on va définir les modes de l'écriture. De même, voilà, nous avons pour les écritures cursives, nous allons avoir la présence des ligatures internes. Ce que j'appelle une ligature interne, c'est la lettre qui devrait être écrite avec des composantes détachées, séparées, qui est écrite en changeant le ductus et l'emplacement de points de rencontre, en fait, entre des traits, d'une telle manière que la lettre peut être écrite d'un seul mouvement de main. Donc là, nous avons la forme de la lettre He, voilà, qui en principe, là, vous avez la forme de la lettre He, je dirais, carré classique, et là, vous voyez que cette partie, la partie donc, de gauche, est accrochée, en fait, en bas de la partie de droite, pour que la lettre puisse être écrite de manière rapide. La même chose pour la lettre Kof, et nous avons également des ligatures, ça c'est la lettre Nun, et encore un allographe de la lettre He, la même, mais cette fois-ci en boucle comme un wow arabe, parce que, voilà, c'est ligaturé avec ce qui précède. Donc nous avons effectivement des éléments des écritures cursives, voilà, et de même pour la lettre Tav, vous avez la forme avec la partie de gauche attachée en haut et la forme avec la partie de gauche attachée en bas à la ligne de base du document. Donc voilà, donc vous avez deux écritures, une écriture non carrée et des écritures cursives sur la même page. Donc, selon la typologie moderne, donc il écrit en écriture orientale, type irakien, et en mode, les deux manuscrits, c'était mode non carré ou minuscule et cursive. Comment lui il définissait sa typologie, c'est assez intéressant parce qu'il nous donne aussi quelques détails, quelques noms. Il met les noms, donc au XIIe siècle, aux écritures différentes. Il utilise l'arabe, donc il parle de l'écriture qui est moujlas, une écriture qui est assise, déjà là ça, être assis. Donc cette écriture-là, c'est une écriture carrée. Pour lui, moujlas veut dire l'écriture carrée, peu calligraphique, simple. Il utilise le terme mohakkak, qui pour lui veut dire l'écriture carrée pour les Bibles, donc extrêmement calligraphiée, même si je trouvais des fragments de textes bibliques de sa main qui sont en écriture non carrée complètement. Donc il avait la capacité d'écrire des textes différents. Donc même si lui-même il définit la fonction et le mode de l'écriture, il ne les suivait pas toujours parce qu'il y avait d'autres demandes probablement qui arrivaient. Et il parle également d'une écriture mu'allak, qui est une écriture suspendue, littéralement, donc l'écriture cursive, ce sont des termes qui se trouvent chez d'autres auteurs. Deux termes qu'il n'utilise pas, mais qui sont utilisés à son époque dans d'autres textes, c'est un terme arabe mashk, qui probablement est équivalent à l'écriture non carrée minuscule, et également un terme qui se trouve uniquement dans Ibn Migash, cité par Maïmonide, un terme qui est mozabzab, très difficile à interpréter, probablement c'est comme le vol d'une mouche. Voilà, donc c'est quelque chose qui probablement, voilà, c'est ça l'étymologie de mot. Nous ne savons pas très bien de quoi il s'agit, mais nous pensons qu'il s'agit d'une non carrée minuscule. Donc il y a quand même du recul parce qu'il y a une terminologie de l'époque que nous devons considérer quand nous parlons des écritures. Mais voilà, donc je voulais juste vous montrer un tout petit peu ce que j'ai déjà défini un tout petit peu quand je parle d'une écriture cursive. Je parle de nouveau des aspects formels très clairs avec la définition de qu'est-ce que c'est cursive par rapport à l'écriture carrée ou non carrée. Donc voilà, il y a une simplification et il y a tous ces éléments qui doivent être pris en considération pour qu'on puisse définir une écriture comme cursive. Donc le point de voilà, donc la simplification de la lettre. Donc pour faire plus vite, voilà. Et maintenant, je voudrais vous montrer un document, juste une page de ce scribe-là, une page qui nous interpelle un tout petit peu, qui est très intéressante. Donc, ce que nous avons ici, voilà, vous la voyez mieux ici, vous voyez sur la même page des modes d'écriture très, très, très différents. Donc, nous avons l'écriture carrée, nous avons l'écriture carrée vocalisée, donc voilà, donc là, c'est, nous avons des exemples. L'écriture carrée, donc c'est la citation d'un psaume. Là, le même psaume, la même écriture, un peu plus petite, mais vocalisée, avec les voyelles. Donc vous voyez à quel point, visuellement, la présence de voyelles, qui en hébreu sont notées par un système de points et des lignes au-dessus, au-dessous des lettres, à quel point ça change l'aspect général de l'écriture, même si ça ne change pas les formes des lettres. Ensuite, nous avons l'écriture, ici par exemple, non carrée, et l'écriture cursive, par exemple ici et ici. Et en plus, donc nous avons ce texte, le texte principal, d'une certaine manière, au milieu de la page, et ensuite, ce que vous avez dans les marges, parfois barrées, et c'est un inventaire de livres. Donc l'inventaire de livres qu'il a vendu, l'inventaire de livres qu'il voudrait copier, l'inventaire de livres qu'il avait copié. Donc clairement, il a écrit une sorte d'exercice d'écriture et ensuite il a réutilisé, recyclé la même page pour écrire ses notes personnelles. Donc nous avons ici, ce que, donc, selon la terminologie des Colette Sirat, nous allons avoir une écriture contrôlée parce que les exercices d'écriture, même cursifs, sont des exercices d'écriture pour des livres, d'accord ? Livresques. Donc les trois modes, toutes les citations que nous avons ici, des trois modes d'écriture, sont des écritures pour des livres, sont des écritures livresques. Donc nous avons donc, la Bible carrée, et ensuite les textes rabbiniques, la Mishnah, par exemple ici, non carrée, les commentaires talmudiques en cursive. Mais tout ça, il s'agit des livres, des fragments, des passages des livres. Donc, il montre la capacité, sa capacité en tant que scribe, d'écrire en trois modes différents qui peuvent être tous utilisés pour produire des livres. Donc, tous les trois sont contrôlés. Il ne s'agit pas d'une écriture cursive non contrôlée. C'est là où on diffère un peu de la définition de Colette Sirat, qui considère que les écritures cursives sont en principe des écritures personnel. Ce n'est pas le cas. Une cursive, du point de vue de la typologie, peut tout à fait être une écriture livresque, même calligraphique, et contrôlée. En revanche, nous avons ici également des écritures marginales, où ce sont vraiment des notes pour lui. Donc, avec la définition, c'était fait pour moi. Ce sont des notes que les aides-mémoires, mon propre inventaire de mon propre travail. Donc nous avons effectivement des possibilités de juger aussi bien de modes différents de l'écriture, mais aussi du mode, donc dans ce cas-là, il s'agit de l'écriture cursive, donc mode cursive, plus ou moins textuel, livresque, et plus ou moins personnel, d'accord ? Donc nous pouvons effectivement avoir un exercice paléographique intéressant. Donc ici, juste pour vous montrer un tout petit peu les écritures carrées qu'il a utilisées, donc vous avez deux exemples des écritures carrées, donc une sans voyelle, l'autre avec les voyelles. Vous voyez les formes des lettres sont des formes des lettres carrées. J'utilise uniquement la lettre Aleph pour illustrer un tout petit peu l'aspect formel de la définition typologique. Bien sûr, une analyse paléographique complète commence par la page, par la ligne, par le mot, par la lettre et par les composantes de la lettre. Mais nous n'allons pas faire toute cette analyse détaillée, donc je vous donne juste des exemples visuels et très clairs pour que vous vous rendiez compte à quel point voilà, les formes des lettres sont différentes d'un mode à l'autre. Et ensuite, on va passer à deux autres modes. Donc là-haut, nous avons le mode non carré et donc minuscule, et en bas les éléments, donc l'écriture cursive. Donc il ne s'agit pas d'une cursive séfarade qui est extrêmement poussée, donc nous sommes dans l'Orient. Cependant, il faut dire aussi qu'au XIIe siècle, en Irak, l'écriture cursive était peu utilisée, et des éléments de l'écriture des Roche HaSeder en Égypte font penser à l'influence maghrébine. Donc je pense que son écriture cursive, justement nous en avons parlé aujourd'hui avec Giacomo, est influencée par son lieu d'accueil. Donc l'écriture cursive doit être examinée de nouveau, parce que nous avons certains aspects. Donc là vous avez les formes des lettres, vous voyez la forme de Aleph qui est en forme de kappa, comme je vous ai dit, typique. Et ensuite, pour l'écriture cursive, nous avons toujours kappa, il y a parfois des allographes, mais aussi nous avons cette forme en N ou zigzag qui est typique, ce qui s'écrit en un mouvement, donc il s'agit d'une écriture cursive. Et nous avons également des ligatures, donc là vous avez Tav suivi de la lettre Hey en boucle, qui est typique des ligatures maghrébines, en fait, et donc de l'écriture cursive. Donc nous avons tout ça. Et nous voyons que dans son écriture cursive que vous voyez ici, il y a des éléments qui se trouvent dans des écritures maghrébines spécifiquement, à partir de l'an 1000 à peu près, et ensuite qui sont transmis vers les écritures séfarades. Donc clairement, il est imprégné de son lieu d'accueil, donc en Afrique du Nord. Donc voilà, donc nous avons les ligatures, il utilise les ligatures qui sont des ligatures d'abord interne, donc que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire la même lettre a une telle forme que toutes les composantes peuvent être écrites d'une traite de plume. Donc voilà, le hey, hey à la fin, kof et tav, aleph en forme de zigzag, et il a également des ligatures entre des lettres différentes, donc qui sont un trait caractéristique des écritures cursives, donc soit des lettres attachées une à l'autre, soit des lettres attachées mais en désarticulant des lettres. Ici nous avons la lettre lamed qui est décomposée, donc là vous voyez là c'est la partie haute de lamed, la partie basse de lamed, mais pour pouvoir accrocher un « he » à la fin, la lettre a été détachée en deux parties, et c'est la partie haute qui attache la lettre suivante, et la partie basse est accrochée indépendamment. Donc ça, ce sont des caractéristiques des écritures cursives, effectivement maghrébines. Voilà, donc ici, c'est pour vous montrer les allographes, à quel point les allographes sont différentes et très faciles à définir selon leur mode. Carré, non carré, cursive. Donc les exemples, c'est la lettre Aleph en haut et la lettre Lamed en bas. Donc il n'y a aucun doute, une simplification, l'élimination des parties horizontales au maximum pour simplifier l'écriture, pour la rendre plus dense et ainsi plus rapide à faire. Donc voilà, et une lettre qui en fait n'échange pas trop dans les écritures, sauf les écritures cursives, mais qui est attestée dans son allographe de base aussi dans les écritures cursives, est la lettre He. Et je me disais que c'est une lettre assez intéressante parce qu'elle pourrait nous informer sur des traits caractéristiques du scribe à travers le mode. Parce que maintenant, la question se pose. Je vous parle de ces 300 fragments des manuscrits. D'accord, du même scribe. Mais comment on les reconnaît? Comment reconnaître ce scribe à travers ces 350 000 fragments de la Guenizah du Caire? On va à travers la Guenizah du Caire, comment on les reconnaît? Pourquoi je dis oui, je les connais, c'est Roche HaSeder? Bon, non seulement parce qu'il y a les gens qui ont travaillé bien avant moi, qui connaissaient très bien son écriture et ses travaux, qui ont identifié la plupart des manuscrits, mais il y a toujours des fragments qui sont en train d'être identifiés. Comment on le sait? Et je me suis posé cette question. Quand je vois un fragment, je dis, ah oui, bien sûr, ça c'est Joseph Roche HaSeder. Pourquoi? Donc, est-ce que je l'ai fait parce que je connais ces trois écritures différentes? Ou parce que je suis capable de transposer d'une écriture carrée à l'écriture non carrée, à l'écriture cursive du même scribe? Et la réponse que je me suis honnêtement donnée était, c'est parce que je connais ces trois modes d'écriture. Qu'il m'est très difficile de bouger, de dire, ah oui, ça doit être lui, il y a des traits similaires dans son écriture cursive, dans son écriture carrée, non. Je n'ai jamais pu les faire et j'ai essayé de définir des traits qui pourraient nous permettre de comparer à travers les modes. Ça, je n'ai pas pu faire. Donc, si on les reconnaît, c'est parce que nous avons des documents très clairs de sa main dans les trois types. Et nous pouvons alors agir par comparaison. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez ici, j'essayais de dégager des traits communs. Et en fait, je n'en ai pas trouvé. Je me disais à un certain moment, peut-être le fait que le trait de gauche tourne vers l'intérieur de la lettre pourrait nous guider, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc ce n'est pas dans tous les cas que nous trouvons cet élément. Voilà, donc écriture, maintenant écriture contrôlée, écriture personnelle. Comme je vous ai dit, pour les écritures cursives, nous avons les deux types. Quand nous les comparons, la seule chose que j'ai pu constater quand il s'agit des formes de lettres, c'est la différence des densités et l'élongation verticale de l'écriture personnelle. Donc, quand il écrit ses propres notes dans les marges, il essaye de serrer un peu plus, il essaye de les faire, donc forcément, ça devient un peu plus vertical. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas beaucoup de place, il écrit dans les marges. Donc, il y a une variante, mais elle n'est pas typologique. Elle est faite ad hoc. C'est le scribe que nous attrapons au moment de son acte d'écriture qui doit moduler son écriture, ses proportions, les proportions des lettres qui sont pourtant... D'habitude, on utilise les proportions des lettres comme justement les experts de l'écriture dans l'aspect légal et forensique. C'est utilisé pour différencier les scribes. Mais non, ici, le scribe fait en fonction de l'espace qu'il a devant lui. Donc, c'est un peu difficile. Donc, je vais rester toujours avec mes définitions formelles. Donc, carrément, les formes des lettres, le tracé, la manière de tracer des lettres, donc les formes des lettres et les ductus des lettres et les groupes entre les lettres pour pouvoir définir mon scribe. Donc voilà, donc je vais m'arrêter ici, mais pour conclure, je voudrais revenir sur la fonction de ce papier et le titre de ma communication. Donc en réfléchissant sur pourquoi il a fait cet exercice, donc d'accord, les notes autour, c'est le recyclage. Il a utilisé le papier, il passait sa vie à copier des livres, il était dans son propre atelier, il écrivait ses propres notes concernant la vente, la copie, etc. Donc il a réutilisé le texte. Mais le texte qu'il a copié, qu'est-ce que c'est ? Un exercice d'écriture ? Ou peut-être aussi, et c'est vers ça que je penche de plus en plus, un exemplier qu'il aurait pu montrer aux clients potentiels en disant, regardez, ça, je peux vous copier comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et effectivement, nous trouvons des fragments, des livres copiés au propre dans les trois écritures. Donc, qui choisissait, parfois dans ses notes, comme je vous ai dit, il a fait des projets extraordinaires. Je vais copier tous les Talmuds et les Mishneh Torah de Maïmonide et tous ces textes. Et il nous dit parfois, je vais utiliser Muhakkak, une belle écriture calligraphiée. Mais dans la plupart des cas, il ne les dit pas. Donc nous savons que parfois il avait ses propres projets où il disait, voilà, il nous donne même des prix. Il donne des collections entières de livres en disant, voilà, je vais faire une collection des livres nécessaires. Bible, Talmud, Mishneh Torah, la Mishnah, donc des grands classiques du judaïsme. Et si je voulais faire en 10 volumes, ça va coûter 60 dinars et je peux vous les faire pour 40 dinars. Donc, il donne des prix très différents aussi, des étagères des livres. Donc, parfois, il définissait lui-même dans quel mode d'écriture il allait écrire. Mais je pense qu'il avait aussi un côté de choix tout simplement par des clients qui commandaient des livres, qui pouvaient effectivement choisir le mode d'écriture. Et je pense qu'ici, nous avons un exemplier de telles écritures, je voudrais bien y croire, je ne suis pas sûre parce qu'on ne sera pas sûr, mais effectivement, ça en a tout l'air. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.